Alors, prions encore et puis ensuite nous prendrons ce que je pourrais appeler un bijou de psaume. Seigneur Dieu, tu es le Dieu de notre salut, le Dieu d'une parole vraie, transmise par les prophètes. Et nous la recevons maintenant comme étant ta parole pour nous, qui nous édifie, nous instruit, nous permet la réflexion et la communion avec toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, un bijou de psaume, eh bien c'est le psaume 131. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est une pensée simple de ce psaume que nous renforcerons seulement par des citations concordantes, mais le commentaire du psaume tient en quelques lignes dans le commentaire biblique. Il n'y a pas beaucoup besoin finalement de s'étaler. Alors pour le besoin d'un message, je vais le faire un peu, mais en soi, ces paroles sont simples et vont à nos cœurs, c'est le but. Avec une remarque préalable, le dictionnaire biblique remarque que la forme du psaume est la même que celle du précédent. C'est une prière personnelle qui débouche sur un appel à Israël pour qu'il mette son espoir en l'Éternel. Le psaume 130, donc, est une instante intercession, un appel au pardon divin, puis vient le témoignage du psalmiste, la conviction que Dieu vient avec sa promesse, il vient l'accomplir, et le témoignage en est donné en exemple à Israël tout entier. Je vais donc vous lire également le psaume 130, cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Le psaume 131 est donc l'expression de la paix, du calme, de la tranquillité, mais il intervient un peu comme le calme après la tempête, l'orage des tourments dus au péché s'est calmé, le pardon est intervenu, des sentiments nouveaux se font jour dans le cœur du croyant. On peut dire que jamais vous ne serez vraiment humble sans avoir connu les affres de la recherche du pardon divin. Ce dernier intervient quand vous êtes devenu petit à vos yeux, et je dirais au plus vite, au mieux, pour vous éviter de trop grandes angoisses. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, proclame aussi David, dans le psaume 119, verset 67. Alors l'apôtre Pierre nous appelle tous à la soumission et à l'humilité. Je vais aller le chercher dans sa première épître au chapitre 5, verset 5. Mais vous allez voir que tout en appelant à cette humilité, cela ne semble pas suffisant pour lui, puisqu'il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pour adopter cette attitude d'humilité mutuelle, il nous faut aussi faire cet exercice de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Et là, nous pouvons, parce que nous sommes humiliés sous la puissante main de Dieu, nous décharger sur lui de tout nos soucis et savoir qu'il prend soin de nous. Et à ce moment, vous arrivez dans l'état d'esprit de David. Et voici cet état d'esprit. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Le proverbe 21,4 dit que les regards hautains et le cœur qui s'enfle sont la lampe des méchants. C'est avec cela, en quelque sorte, qu'ils éclairent leur vie, qu'ils se dirigent, qu'ils existent. Mais la conclusion, c'est que tout cela n'est que péché. Eh bien, David peut dire, alors que par ailleurs, dans le psaume 119, il dit également « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. » La parole de Dieu a remplacé pour lui la lampe dont se servent les méchants, le regard hautain, le cœur qui s'enfle. Et d'ailleurs, le psaume donc 119, 64, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. C'est ce qui est arrivé dans la vie de David. Et nous constatons dans son histoire que les dispositions de son cœur sont réelles. David ne parle pas de façon artificielle. Il est réellement, et dès le commencement de sa vie, dans l'humilité. Initialement, il se sait de basses conditions par rapport à la royauté. Il met en avant, lorsque on vient lui présenter la possibilité d'être le gendre du roi, il dit « Mais moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Une fois élevé par Dieu, il prie avec étonnement « Qui suis-je, Éternel ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» Et à la conclusion de sa vie, « Qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Voilà l'esprit qui a accompagné David. Et si à certains moments de sa vie, il est tombé. Il a manifesté de l'orgueil, on pense au recensement par exemple, qu'il avait voulu, contre l'avis de son général, hein, il avait quand même persisté à vouloir faire le recensement. Mais il est revenu systématiquement à l'humilité. Il s'est humilié devant Dieu. Et maintenant, il peut parler de cette manière-là. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Il est roi. Il a assumé de grandes responsabilités. Mais ici, il se ressent comme tout un chacun. Et il va évoquer une expérience universelle qui est celle de l'enfant sevré qui est auprès de sa mère. Expérience d'autant plus universelle à l'époque, puisqu'il arrive couramment maintenant que les mamans ne donnent plus le sein. Il y a les biberons qui remplacent. Mais du temps de David, c'était une généralité et il fallait à un moment donné que l'enfant soit sevré et tous faisaient cette expérience dans leur prime enfance. Je vais aller dans l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, pour trouver une exhortation. Le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'aime l'introduction de cette exhortation car l'apôtre dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas une trop haute opinion. Il ne le dit pas par un esprit de supériorité sur les autres. Il reconnaît que s'il peut exhorter à l'humilité, c'est une grâce que Dieu lui accorde. Et voilà, ayez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu accorde à chacun. Le ministère, les dons qu'il accorde, tout doit, et David, c'était la royauté, tout doit être exercé avec modestie et humilité. Et puis, au verset donc 16 du même chapitre, hein. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Quand on pense au Seigneur Jésus, on voit dans l'épisode de son enfance, au chapitre 2 donc de Luc, qu'il était conscient de ce qu'il était et de ce qu'il devait accomplir, puisque il rétorque à ses parents qui l'ont trouvé dans le temple en train d'enseigner les docteurs de la loi. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Il accomplissait sa vocation. On peut dire qu'à 12 ans, peut-être, pour d'autres, ça aurait été s'occuper d'affaires trop relevées pour eux. Mais pour lui, c'était sa mission, c'était pour cela qu'il était sur la terre. Donc il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son père et il va le faire. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Bien qu'occupé à ce moment-là par les affaires de son père, parce que la circonstance l'avait permis, il leur était soumis. Il est retourné avec eux et il a repris sa vie d'enfant d'une famille de ce temps-là. L'humilité du Seigneur Jésus. Il était soumis à ses parents, bien qu'étant le fils du Père. Alors j'ai l'âme calme et tranquille, dit le psalmiste. Connaissez-vous cet état d'âme? Au moins, l'avez-vous expérimenté un jour? Dans votre prime enfance, comme David, puis vous en avez oublié le souvenir. Le commentaire biblique dit, avant d'être sevré, l'enfant sait que sa mère le nourrit et il demande le sein. Après le sevrage, il est content d'être avec sa mère. Sa présence lui suffit. Ainsi doit-il en être entre nous et Dieu. D'être simplement dans la présence de Dieu qui nous suffit. Alors j'aime parce que le commentaire, la fin du commentaire témoigne de notre difficulté puisque il dit ainsi doit-il en être entre nous et Dieu. Alors que le psalmiste dit j'ai l'âme calme et tranquille. Il l'expérimente. Il ne dit pas « je dois avoir » à ce moment-là, mais il l'a reçu. Il est dans une position vraiment de confiance dans son Seigneur. D'ailleurs, il a exprimé aussi dans un cantique à la fin de sa vie de 2 Samuel chapitre 23, les choses qu'il a vécues avec Dieu. C'est beau de voir ce qu'il exprime. Alors, je vais prendre les versets 1 à 5 de 2 Samuel, chapitre 23. C'est un psaume, c'est un cantique quasiment. Les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Voilà l'esprit de David, la confiance, l'esprit de sécurité dans lequel il se trouvait. Alors si les sentiments vous manquent, bien recherchez quand même cette position spirituelle. C'est l'exhortation promesse que le Seigneur lui-même nous fait à travers le prophète Ésaïe dans son chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Malheureusement, l'état d'esprit du peuple est encore à combattre par ses propres moyens. Alors que le Seigneur lui demande d'être dans le calme et la confiance, dans le repos et la tranquillité. Et là, le Seigneur va pouvoir être à l'œuvre. Donc, il nous faut abandonner cette approche de vouloir faire les choses par nous-mêmes, de vouloir nous défendre, peut-être nous justifier. Toutes ces choses, laissons-les de côté pour recevoir calmement la présence du Seigneur et la sécurité que nous avons en lui. N'oublions pas que le Seigneur Jésus prend en exemple l'humilité des petits-enfants et que nous devions leur ressembler. Peut-être a-t-il à l'esprit justement cet enfant qui est auprès de sa mère, l'enfant sevré qui est auprès de sa mère. Alors, à défaut d'être spontanément et en permanence dans le bon état d'esprit, nous y sommes exhortés par la parole. Et bien sûr que l'épître aux Philippiens, l'apôtre va vraiment tourner nos cœurs vers Jésus en nous demandant de lui ressembler. Puisque au chapitre 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, après, il arrive à la partie, on peut dire, théologique, la doctrine du Fils de Dieu, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, l'apôtre nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce chemin d'humiliation qui mène à la gloire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors combien nous sommes amenés, alors que nous connaissons le témoignage de Jésus, à développer les mêmes sentiments que lui. Et si nous développons les mêmes sentiments que notre Seigneur, l'aboutissement, ce sera la même gloire que notre Seigneur. La gloire avec lui. Identifié à lui dans son humiliation, nous serons aussi identifiés à lui dans sa gloire. Quand il nous parle dans l'Évangile ne nous dit-il pas de venir à lui parce qu'il est doux et humble de cœur? La proximité que nous avons avec Jésus va produire ces sentiments de douceur et d'humilité. Et nous allons pouvoir avancer dans la vie et travailler valablement, efficacement à l'œuvre du Seigneur. Parce que ce sera dans la confiance en lui, dans la paix, dans l'assurance que lui, il est là avec nous et à l'œuvre. Alors la conclusion du psaume s'adresse à Israël. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Et elle s'adresse aujourd'hui à l'Église, qui a Jésus-Christ comme chef, pour que la foi de l'Église demeure entière, persévérante, jusqu'au bout, et que les fruits de l'Esprit de Dieu puissent se manifester à nouveau et toujours sur la terre. Je terminerai avec cette exhortation de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, versets 9 à 12. Quoique nous parlions ainsi, parce que l'apôtre vient d'avertir concernant le fait de ne pas recevoir, alors que nous serions exposés à la bénédiction de Dieu, de ne pas la laisser agir en nous. Donc il donne un avertissement, mais il conclut « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. » C'est bien parce que David a eu la foi et qu'il a persévéré qu'il a finalement obtenu la promesse que sa maison ne disparaîtrait pas devant le Seigneur, qu'il aurait toujours un fils sur le trône d'Israël et qu'il a été de ce fait l'ancêtre de Christ. Il a dû persévérer, il a eu beaucoup de luttes, il a eu des combats, mais il est resté attaché et proche du cœur de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Nous avons à, bien sûr, affronter toutes sortes de situations difficiles dans nos vies, mais si nous le faisons avec l'esprit de confiance en Christ, eh bien, nous serons victorieux finalement et prêts pour le hériter des promesses que le Seigneur nous a faites. Alors, j'ai justement les paroles ici d'un chant que notre frère Étienne a écrit. Il n'a pas eu l'occasion encore de nous le chanter, mais qui exprime un peu cet état d'esprit. Je désire habiter dans la maison du Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure. Il y a un autre chant aussi qui parle d'habiter dans la maison de Dieu. Et je vous lis les paroles de ce chant. Je préfère me tenir à l'ombre de tes ailes que jouir pour un temps des plaisirs éphémères. Plutôt que vouloir goûter tous les fruits de la terre, je désire habiter tes palais éternels. Tous les grands de ce monde, les riches et les puissants, accaparent à la ronde des trésors éblouissants. Mais viennent les vents violents, la pluie et les terrains glissants, le feu et puis les tremblements, tout s'évanouit dans le néant. Je préfère me tenir à l'ombre de tes ailes, que jouir pour un temps des plaisirs éphémères. Plutôt que vouloir goûter tous les fruits de la terre, je désire habiter les palais éternels. Tous les orgueilleux, tous les prétentieux font entendre leur voix pour imposer leur loi. Mais moi, je préfère me tenir à l'ombre de tes ailes, que jouir pour un temps des plaisirs éphémères. Plus que vouloir goûter tous les fruits de la terre, je désire habiter tes palais éternels. Et là, dans la présence de Dieu, nous aurons l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Amen.